L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Mais moi, je suis prêt. Je suis content que vous êtes là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici. Vous avez mangé beaucoup pendant le temps des fêtes. Vous êtes peut-être fatigué un petit peu. Mais Dieu est là. Amen. Dieu est au rendez-vous. Et puis, même si on peut vivre des fois de la fatigue, bien, Dieu est là pour nous restaurer en même temps. Et ce matin, on va lui donner toute notre attention pour vraiment recevoir ce que Dieu en réserve pour nous ce matin en préparation pour l'année 2014. Amen. Moi, je crois que c'est un bon temps. Juste avant d'arriver dans le nouvel an, on veut se préparer spirituellement pour vivre ce que Dieu en réserve pour nous et se préparer spirituellement. Donc, on va juste pencher nos têtes et on va donner cette portion au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi et on te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence qui est ici. On te remercie pour ton esprit qui veut nous parler. Merci parce que tu nous aimes avec un amour éternel. Et aujourd'hui, on ne veut pas recevoir d'un homme, on veut recevoir de toi. On prie, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci, Seigneur Dieu, qu'on a une bonne attitude tout au long de cette prédication. On a des cœurs ouverts pour recevoir de toi. On te remet ce temps, on te remercie pour l'œuvre de ton esprit qui est là parmi nous. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez venir avec moi dans le psaume 60, au verset 14. Il est écrit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Remarquez, qui fera des exploits? Nous ferons des exploits, mais avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et j'aimerais prendre le temps qu'on puisse laisser cette parole descendre dans nos cœurs. Nous ferons des exploits. Personnellement, nous allons faire des exploits. Et corporativement, dans cette église, un vécu, nous ferons des exploits. Amen. Moi, je crois ça. Je m'attends qu'en 2014, nous vivrons l'année la plus glorieuse de toutes les années depuis la fondation de cette église. Amen. Nous allons de gloire en gloire et je me réjouis déjà à l'avance pour les choses qu'on va expérimenter dans cette maison. Moi, je dis gloire à Dieu pour ça et je suis rempli d'expectatives, je suis rempli d'anticipation, sachant que le Seigneur va travailler parmi nous. Il y a plusieurs ministères qui sont en train de démarrer à l'Église, des nouvelles choses que le Seigneur a préparées, des nouveaux projets qui sont là devant nous. En fait, c'est des projets que Dieu avait toujours dans son cœur, mais on est en train de se positionner pour entrer dedans. Les gens se positionnent également pour y arriver. Et gloire à Dieu pour les choses qu'on va vivre ensemble. Donc, c'est encourageant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais une des choses qu'on va prêcher ce matin, l'enseignement, c'est l'année de la terre promise, l'année de notre terre promise. Dieu nous appelle à entrer dans notre terre promise spirituelle. Donc, j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Nombre, chapitre 13. Ici, on va voir le peuple d'Israël qui avait une destinée, qui avait un héritage en Dieu, une terre promise. Et pareillement, nous avons une terre promise que le Seigneur en réserve pour nous, qu'il nous donne en héritage. Mais même si nous avons un héritage, Dieu nous appelle à coopérer avec son Saint-Esprit pour aller chercher notre héritage en Jésus. Donc, des fois, les gens disent « Oui, ça m'appartient, mais... » On a bien beau avoir un héritage, mais si on ne fait rien pour aller chercher, l'héritage va rester éloigné de nous. Mais on veut s'approcher de Dieu aujourd'hui, s'approcher de sa parole et recevoir ce que Dieu en réserve pour nous, parce que c'est ça que Dieu veut. Donc, dans Nombre, chapitre 13, au verset 1er, il est écrit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. » Donc, remarquez ici, l'Éternel parle à son serviteur Moïse, au verset 2, il se dit, « Envoie des hommes. » Déjà là, Dieu a parlé à Moïse, « Envoie des hommes pour faire quelque chose, pour explorer le pays de Canaan. » Ça, c'était la terre promise. Et pour nous, notre terre promise, ce n'est pas nécessairement Canaan, mais notre terre promise, c'est vivre la présence de Dieu ici dans cette maison, comme jamais auparavant. Vive la présence de Dieu. Que le ciel envahisse cette maison. Que le ciel envahisse vos vies. Amen. Imaginez si, en 2014, vous expérimentez une visitation de Dieu comme jamais auparavant. Que le Saint-Esprit vienne sur vous et révolutionne votre vie. C'est possible. En 2014, vous pouvez vivre le summum de la gloire. Et vous allez voir, les années passées, vous allez dire, bien, c'était merveilleux avec Dieu, mais ce que j'ai vécu en 2014, ça surpasse toutes mes attentes. Dieu m'a visité en 2014. J'ai eu la visitation de Dieu dans ma vie comme jamais auparavant. Ça, c'est la terre promise qui est devant moi, qui est devant vous, pour tous ceux qui veulent. Amen. Mais là, il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, que je donne. Voyez, il y avait un terrain, un pays donné au peuple de Dieu, mais il devait aller chercher cette terre-là. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Et là, au verset 17, ça dit, Moïse les envoya. Heureusement, Moïse était un serviteur de Dieu obéissant, n'est-ce pas? Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Donc, Dieu avait donné une mission et Moïse, son serviteur, a écouté. Et là, on sait qu'il y a eu 12 espions qui ont été envoyés dans la terre promise pour aller explorer le pays, pour voir quelle sorte de pays ils avaient devant eux. Une des choses, au verset 20, Moïse avait donné une consigne au peuple de Dieu, en fait aux 12 espions. « Ayez bon courage. » Quand Dieu nous donne une mission, nous avons besoin de courage, nous avons besoin de foi, parce que l'ennemi veut nous décourager. Saviez-vous ça? Vous avez tous une destinée en Dieu cette année. Dieu veut que vous puissiez vraiment faire des exploits avec lui. Mais l'ennemi veut vous décourager, vous empêcher de rentrer dedans. C'est rien de nouveau, je vous apprends rien. Mais si on se rappelle de ces choses-là, on va savoir que j'ai une destinée en Dieu et aujourd'hui, je vais y arriver parce que je vais prendre une décision de marcher exclusivement avec Dieu. Donc, ayez bon courage. Et là, on va aller au verset 26. Là, on a les 12 espions qui sont allés dans le pays, sont allés voir, sont allés explorer. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent le pays, montrèrent le fruit du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc, ici on a deux compagnies qu'on va distinguer. Il va y avoir ils, donc 10 des 12 représentants du peuple de Dieu, des espions. Et nous avons également deux personnes, deux individus qui vont vraiment se distinguer des 12. Donc, des fois, sur 12, il y a une majorité, 10 personnes qui pensent d'une certaine façon. Et il y a toujours un petit regroupement, des fois très petit, qui sont capables de voir la vision de Dieu, qui sont capables de voir d'une façon différente. Regardons ici ce que la majorité a vu, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est bien vrai, c'est un pays d'abondance. Et en voici les fruits. Mais, dites mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. » Ça, c'est un peuple de géants, imaginez. Et là, si on va au verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Là, Caleb, un homme de foi, il fait taire ceux qui se plaignaient. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Voyez-vous, il y a toujours des gens qui vont être capables de voir le négatif et dire, « Oui, c'est vrai, c'est un pays d'abondance. Oui, c'est vrai, Dieu a donné cette promesse, mais il y a des obstacles devant nous, il y a des géants devant nous. » Il y a ce groupe-là, mais il y a l'autre groupe également qu'on retrouve ici, Caleb et Josué. Caleb qui dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Pourquoi? Parce que si Dieu nous donne ce pays-là, c'est pas pour échouer, mais Dieu va nous le donner et nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Encore des défaitistes. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une autre taille. » Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, voyez-vous, même s'ils avaient la bénédiction de l'Éternel, la promesse de Dieu, ces gens-là voyaient toujours avec des yeux naturels. On est comme des petites sauterelles comparativement à ces hommes-là qui sont forts et puissants et grands. Et combien d'entre vous, des fois, vous êtes là, si Dieu vous a donné un rêve, une vision pour votre vie, des paroles prophétiques, et Dieu vous a dit, voici la terre promise, voici ta destinée, et vous êtes là, puis vous dites, oui, mais c'est impossible à cause, dans le naturel, je suis comme ci, comme ça, ou je suis limité de certaines choses. Il y a toujours deux visions, la vision divine et la vision humaine. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? On peut continuer, on pourrait lire le chiolage de 3, versets 3 à 5 dans Nombre 14, mais on va sauter cette partie-là, parce que je suis sûr que vous êtes capable d'imaginer. Ils sont encore là en train de chioler, on aurait dû retourner en Égypte, on est sorti ici pour mourir dans le désert, et là c'est encore du chiolage. Verset 6, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Donc voilà la vérité. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Encore la promesse est là. Seulement, ne soyons pas rebelles. Remarquez ici ce que Caleb dit. Ne soyons pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Donc ici, on a encore une fois un homme de foi qui dit, peu importe, Dieu est avec nous. Donc si Dieu est avec vous dans votre destinée, vous pouvez y arriver dans votre terre promise. Amen. Là, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Ça va bien, hein? Bon, des hommes de foi, des hommes de doute. Souvent, les gens dans le doute veulent lapider les gens de la foi. C'est vrai ça. Amen. Si vous êtes dans la foi, si vous prenez les promesses de Dieu qui sont dans la parole et vous commencez à croire Dieu, peu importe le besoin que vous avez dans votre vie, mais vous commencez à croire que Dieu est votre provision, qu'il est votre source de provision et vous relâchez votre foi dans la parole de Dieu et vous commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre vie, dans votre corps, dans vos finances, dans votre famille. Vous commencez à déclarer, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et vous commencez à vraiment vous tenir dans la promesse de Dieu. Bien là, vous êtes dans la foi et vous êtes content, vous êtes dans l'expectative, vous êtes dans la joie parce que la joie du Seigneur est votre force. Mais il y a toujours des gens qui vont être là pour essayer de vous siphonner votre joie. Et vous dites, mais non, c'est pas possible à cause de ceci et de cela. Mais vous, votre responsabilité, c'est de demeurer dans la foi et d'être comme Josué et Caleb, des gens de la foi. Peu importe ce qu'on peut voir dans le naturel, même s'il y a des géants dans le pays, votre Dieu est capable de vous donner la terre promise. Et en 2014, je déclare dans cette maison que tous ceux qui vont choisir de marcher dans la foi, qui vont choisir de croire le rapport de Dieu sur leur vie, ils vont vivre les percées spirituelles que Dieu en réserve pour eux. Amen. Moi, je m'approprie aujourd'hui les promesses de Dieu pour cette maison. Les prophéties qui ont été déclarées sur cette maison, avant même l'ouverture de la maison ici, les paroles qu'on a reçues, moi je dis oui et amen à ces promesses-là. Je les reçois et déjà on a vu plein de choses se produire. Je peux réécouter les prophéties qui ont été déclarées, même quand on était en Alberta, les prédicateurs qui venaient, qui prophétisaient sur l'œuvre de Dieu qui était pour être établie. Ces paroles-là, plusieurs d'entre elles ont été accomplies. Je regarde dans le passé puis je dis, waouh, Dieu était bon. Waouh, Dieu était bon. Ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Toutes les choses que j'ai vues, plusieurs choses, une chose après l'autre ont été accomplies. Et si Dieu l'a fait dans le passé, il va certainement continuer à le faire. Autant et aussi longtemps qu'on reste avec lui. On dit, Seigneur, on est un peuple de la foi. Et c'est quoi, c'est un peuple de la foi? C'est un peuple qui croit Dieu, tout simplement. Un peuple qui dit, c'est écrit et c'est ça qu'on va vivre. Amen. Tout ça, la présence de Dieu, les choses qu'on va vivre en 2014, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Dans Colossiens 2, verset 15, ici, ça nous donne notre identité en tant que chrétiens victorieux. Des fois, il y a des gens qui peuvent rouler les yeux et dire, « Ah, l'Église, la victoire, vous prêchez que la victoire. » Mais c'est sûr qu'on ne prêchera jamais comment être dans la défaite. Je ne prépare jamais de message comment aller d'échec en échec et de vivre la défaite. Parce que c'est pas ça que Dieu nous enseigne à croire. On ne se prépare pas à vivre l'échec. Cependant, on est réaliste et on comprend que l'ennemi nous oppose. Donc, on n'a jamais prêché ici que le chrétien n'a pas d'opposition. Non, il y a de l'opposition. En fait, quand on est vraiment engagé avec Dieu, c'est là où on va avoir plus d'opposition. Amen. Il y a des gens qui vont vouloir nous lapider. Même des fois dans le corps de Christ, qui vont mal nous comprendre ou qui vont nous juger. OK? Donc, on comprend ça. Donc, il faut même être prêt. Quand on s'affirme pour Jésus-Christ, pour la parole de Dieu, sans compromis, Des fois, on peut être opposé, mais gloire à Dieu, on continue. Et l'identité du victorieux, c'est une chose qu'on a besoin en 2014. Si on s'appelle l'Église de la victoire, c'est pas pour rien, c'est parce que nous croyons que Christ nous a rendus victorieux. Amen. Dans Colossiens 2, verset 15, il est écrit « Christ a dépouillé ou désarmé les dominations et les autorités. » Donc, même si les démons de l'enfer veulent s'attaquer à vous en 2014, comprenez que Christ a déjà désarmé ces démons-là. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Déjà, c'est arrivé. Le 2000 ans, Christ à la croix a déjà gagné la victoire pour vous et pour moi. Amen. Donc, je suis déjà victorieux. Je ne lutte pas contre le diable ou Satan. Moi, mon seul combat, c'est le combat de la foi. Et je garde ma foi dans l'œuvre de la croix. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, dans la Bible du Sommeur, il est écrit, « Dieu nous associe toujours. » Dites toujours. Voyez-vous, ici, c'est extrémiste. L'apôtre Paul qui écrit ça, c'est un extrémiste. Il dit toujours. Mais écoutez bien. « Dieu nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui, il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance de Christ. » Amen. Donc, en tout lieu, la connaissance de Christ va se répandre ici à EVQ. Par le ministère Entrailles de EVQ, par exemple, on va aimer les gens qui nous entourent dans notre ville. Amen. Le croyez-vous ce matin? Je crois que Dieu nous appelle à avoir cette odeur, un parfum, que les gens puissent voir. Ça, c'est l'amour de Dieu en action, qui aide les gens qui sont peut-être opprimés, les défavorisés. Dieu nous appelle à aimer d'une façon tangible. Et on va continuer à le faire en 2014. Gloire à Dieu pour ça. Avec les arts, j'ai été impressionné, épaté la semaine passée pendant notre belle pièce de théâtre. Et j'ai vu ça, je me suis dit, wow, gloire à Dieu. Dieu nous a donné des dons, des talents avec notre sœur Martine Blanchette. Dieu nous a béni. Dieu a béni cette maison avec quelqu'un de qualité qui aime Dieu et qui aime le peuple de Dieu et qui aime les arts, qui aime les perdus et qui veut s'investir pour voir des âmes sauvées. Gloire à Dieu pour ça. Et une église comme la nôtre où les gens veulent servir dans les arts. Je trouve ça glorieux de voir autant de personnes impliquées dans une pièce de théâtre. Mais ça, c'est seulement un début. On est juste au début. Imagine ça, c'était notre première. Et Dieu nous appelle à vivre des plus grandes choses encore. On va aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Donc, Dieu nous appelle vraiment à être ce parfum. Il n'y a pas de limite. Si on ne met pas de limite à ce que Dieu peut faire avec nous, il n'y a pas de limite pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Et là, je vous invite à venir avec moi dans Deutéronome 28, verset 13. J'ai fait une série l'année passée, mais en fait, c'est peut-être en 2013, sur la bénédiction de l'Éternel. Et c'est juste un texte qu'on a eu dans cette série, Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13, il est écrit, « L'Éternel fera de toi, dites de moi, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Gloire à Dieu. Donc, on croit toujours dans la victoire. Comprenez ceci, ça c'est à cause de l'œuvre de la croix. On n'a aucun mérite. Sans l'œuvre de la croix, sans Seigneur Jésus, on ne peut rien faire. Mais comme on a vu au début, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et des fois, notre problème, c'est qu'on est là, on pense que Dieu va tout faire. Mais ce qu'on a besoin de réaliser aujourd'hui, c'est que oui, Dieu est grand et tout puissant, mais il a besoin d'un peuple qui répond à l'appel. Quand Dieu appelle, il a besoin d'un peuple pour œuvrer, pour aller briller pour lui et aller prendre cette terre promise. Entre autres, le Québec, c'est notre terre spirituelle. Nous devons aller prêcher l'Évangile au Québec, commençant dans cette ville, commençant ici. Premièrement, on prêche l'Évangile ici, mais on a besoin d'un peuple fidèle, un peuple qui croit dans la mission de cette maison, qui va avancer. Et moi, je dis gloire à Dieu. Mais comme j'ai lu ces textes-là, bon, j'en avais dans le Nouveau Testament, mais celui-là, Deutéronome 28, il y en a ici qui ont dit, oui, mais ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. On ne peut pas prendre un texte de l'Ancienne Alliance et dire que c'est pour nous aujourd'hui. Ah, bien, dans Hébreux 7, verset 22, juste pour vous rassurer, il est écrit, « Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. » C'est vrai, c'était l'Ancienne Alliance. Donc, l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. C'est encore mieux aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut augmenter? Je ne sais pas. Mais tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça veut dire que je vais être encore plus haut que le plus haut. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Ceci veut dire que Dieu veut prendre son peuple. Et il veut déverser sa gloire sur son peuple. Qu'on puisse resplendir la gloire de Dieu dans cette ville. Qu'on puisse vraiment être le numéro un dans tout. Puis vous dites, ouais, mais c'est prétentieux ça. Non, Dieu nous appelle à briller pour lui. Savez-vous, quand j'étais à la télévision au Miracle Channel, on a eu une équipe de Global TV, une équipe dans la télévision dans le monde séculier. Et puis, ils venaient voir les studios de TV. Et puis, ces gens-là dans le monde disaient, mais votre équipement est supérieur à notre équipement. Vos studios sont plus beaux que nos studios. Est-ce que c'est possible que les chrétiens, que les enfants de Dieu quittent l'esprit de pauvreté et entrent dans l'excellence et de recevoir de Dieu la bénédiction pour briller justement dans notre monde? Pas briller dans le matériel, c'est pas le but, mais de briller dans les exploits que Dieu nous appelle à accomplir pour lui, pour son nom. Que les gens entendent parler de Jésus cette année en 2014. J'ai cette année, je suis déjà dans une vision prophétique. Mais en 2014, reste prochainement. Amen. Donc, moi, je dis que Dieu veut bénir cette maison. Il veut nous aider à aller de l'avant pour prêcher l'Évangile et d'une bonne façon. Donc, tout comme le peuple de Dieu, établissons premièrement dans nos cœurs que nous avons une terre spirituelle en héritage. Amen. Une autre chose qu'on doit faire, si on doit relâcher notre foi, nous devons croire aujourd'hui que nous pouvons obtenir cette terre spirituelle-là. Il y a des gens qui vont entendre parler de la terre promise spirituelle, comment oui, on peut œuvrer pour lui, pour le Seigneur en 2014, mais qui ne relâchent pas leur foi, sont là comme des auditeurs. Mais vous savez, vous pouvez passer le même temps ce matin. Il y a une personne qui est là aujourd'hui, qui est comme une éponge, qui dit, « Oui, Seigneur, je reçois. Oui, c'est mon héritage. Je vais briller pour toi en 2014. Je vais proclamer tes hauts faits. Je vais te glorifier cette année. Je vais gagner des âmes pour toi. » Il y a quelqu'un comme ça aujourd'hui qui absorbe. Puis il y a une autre personne qui est à côté. Il y a pourtant quelques centimètres seulement. L'autre personne est comme, « Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Là. Est-ce qu'il y a vraiment un rapport? Est-ce que c'est pertinent? » Ils vont investir une heure. Ils ont investi le même nombre de temps. Une personne a relâché sa foi pour que Dieu se glorifie et l'autre personne est incrédule. Mais vous saviez, la grande majorité, comme on a vu, sur 12, il y en avait juste 2 qui étaient remplis de foi. Mais aujourd'hui, même avant que je continue à aller plus loin, vous pouvez dire, moi je me positionne avec Caleb et Josué. Je me positionne avec la gang d'extrémistes qui osent croire Dieu pour le miraculeux, qui osent croire Dieu pour les grandeurs. Amen. Amen. Donc, qu'on soit tous des Josué et des Caleb aujourd'hui. On va voir le Seigneur se glorifier. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, dans Jacques chapitre 4, verset 8, un texte que j'aime beaucoup. Ici, c'est notre garantie que Dieu va se servir de nous en 2014, que c'est notre terre promise spirituelle. Jacques 4, verset 8, c'est une promesse. Vous pouvez vous attacher à cette promesse. Il est écrit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Voyez-vous encore une fois notre responsabilité? C'est notre responsabilité de s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. C'est ça qu'on veut vivre. On veut que Dieu s'approche de nous dans sa présence, qu'il vienne se glorifier. Mais ce qu'on a besoin, c'est nous, premièrement, on doit s'approcher de Dieu. On doit s'approcher de lui. On doit chercher sa face. On doit chercher la face de Dieu. C'est-à-dire ensuite, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça veut dire se détourner du mal, se détourner du péché. Là, vous dites, ben, c'est bien merveilleux. Moi, je crois qu'on a une terre promise. Je veux rentrer dedans. Je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux toutes ces choses en 2014. Je veux que ça soit l'année la plus glorieuse de ma vie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour y arriver? Bien, je suis content que vous avez posé la question. Nous devons affronter les géants devant nous. Saviez-vous qu'en 2013, entrant en 2014, nous avons encore des géants dans le pays? Nous avons des géants. Laissez-moi vous informer. Le premier géant, c'est l'état charnel du croyant. L'état charnel du croyant. Et vous dites, « Ah non, pasteur, ça ne me tente pas d'entendre parler de ça. » Mais si ça ne vous tente pas, ça vous concerne. Hallelujah! Parce que les gens spirituels disent, « Ah, moi, j'aime ça entendre parler de ça. » Mais si vous dites, « Ah non, hallelujah », dites « Alléluia ». Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il y a des gens qui disent, « Ah, ça n'existe pas, c'est des chrétiens charnels. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pas du tout. C'est impossible. On va voir ce que Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 3, commençons au premier verset. Vous savez vraiment, là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais c'est toujours une décision personnelle. Parce que Dieu veut toujours. Dieu, pensez-vous qu'il ne veut pas sauver les masses? Dieu veut sauver les gens. Dieu veut sauver vos voisins. Il veut sauver les gens de cette ville. Il veut rencontrer chaque personne. Son cœur, c'est que tous le connaissent, que tous se repentent. Ça, c'est le cœur de Dieu. Donc, si Dieu attend, c'est jamais nous qu'on est là. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, c'est Dieu qui nous attend, qu'on se positionne dans la foi et qu'on se positionne spirituellement dans une consécration. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul disait ici aux frères, il dit, pour moi, frère, dites frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, ici, on peut voir qu'il y avait des chrétiens qui étaient des frères, mais pourtant charnels, qui ne vivaient pas vraiment d'une façon consacrée à Dieu. Et là, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16, on va juste un chapitre avant, ça dit ici que l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, parfois, les gens qui ne sont pas spirituels, vous êtes là, vous êtes en train de leur dire ce que vous croyez que vous allez vivre en 2014 et vos attentes et tout ça. Savez-vous ce qui peut se produire? Les gens vont se moquer de vous et ils vont même rouler les yeux. Connaissez-vous des gens, des fois, qui se roulent les yeux, qui sont « Ouais. T'es encore parti sur ton affaire, t'es encore parti dans ta bulle, là. » Ces gens-là roulent les yeux. Et ces gens-là ne vivent rien avec Dieu. C'est dit, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas les recevoir. Des fois, c'est pour ça qu'on ne s'argumente pas avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on a bien beau vouloir justifier nos points. La Bible dit qu'ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas comprendre. C'est juste quand on a donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ qu'on peut vraiment recevoir les révélations de Dieu. Parce que les choses se révèlent comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas sauvé, on a un échange spirituel avec eux, sont voilés, la Bible nous dit. Ils ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais. À moins de dire, oui, Seigneur, je te donne ma vie. Et là, le voile est enlevé. Là, ils peuvent voir, ils peuvent lire la Bible, ils comprennent, c'est merveilleux. Mais avant ça, ça n'arrive pas. Donc, l'homme charnel ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Tu sais, c'est fou, ça. C'est ridicule. C'est quoi, cette affaire-là? Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et spirituellement, ils sont morts. Donc, ils ne peuvent pas juger de ces choses-là. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Donc, nous, les hommes spirituels, les hommes et les femmes spirituelles, on juge de tout. On juge si on va faire telle ou telle chose selon le cœur de Dieu. On va dire, ah ben ça va déplaire à Dieu, je ne le ferai pas. Je vais juger cette chose-là, elle est mauvaise pour moi, mais je vais discerner que cette chose-là est bonne. Amen. Donc, on juge de tout. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Amen. On peut bien discerner. Donc, l'état charnel, OK? Ça, c'est une chose, on veut s'éloigner de tout aspect charnel de la vie chrétienne. Et vous allez dire, bien, ça, c'est sûr, pasteur, moi, je suis super full spirituel, je suis un superman spirituel, donc ça ne s'adresse pas du tout à moi. Mais, vous savez, on a besoin de revenir à la base souvent. Amen! Bon, gloire à Dieu. Maman est d'accord, et alléluia. Amen. Donc, le géant numéro un à abattre, c'est l'état charnel du croyant. Et le peuple de Dieu spirituel dit... Amen. OK, vous êtes d'accord. Donc, on va l'attaquer. Premier géant, pow, il disparaît. Deuxième chose qu'on veut voir, géant numéro 2, c'est l'incrédulité et la paresse spirituelle. Dites paresse spirituelle. Là, c'est sûr, on parlait de votre voisin, pas vous, là. Mais la paresse spirituelle, on va parler de ces choses-là, et j'ai mis l'incrédulité parce que certaines personnes vont dire, ben, ça ne me concerne pas, je doute que je sois paresseux spirituellement. Donc, l'incrédulité face à votre propre paresse spirituelle. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Excusez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc, si nous sommes des disciples, nous sommes censés être disciplinés. Amen. Le chrétien, l'enfant de Dieu véritable, qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un de discipliné. Et si vous dites, ben ça, c'est pas mon genre, j'ai jamais été discipliné, au nom de Jésus, en 2014, vous devenez le chrétien le plus discipliné de toute votre vie. Vous êtes discipliné. Ne croyez pas votre passé pour déterminer votre futur. Ne dites pas, j'ai toujours été un lâche, j'ai jamais lu ma Bible, j'ai jamais fait ci puis ça, j'ai jamais été capable. Ne croyez pas ce mauvais rapport. Si vous croyez votre mauvais rapport du passé, comment entrer dans votre terre promise? Amen. Oubliez votre passé. Dites pas, je suis pas capable, j'ai jamais été capable, je suis pas discipliné. Dites, je suis discipliné. Amen. Donc, un disciple, c'est une personne disciplinée. Et là, dans Galates 5, versets 22 à 23, je vais vous donner le verset que vous devez méditer. Si vous avez du mal avec la discipline. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, ou vous dites, ben, j'arrive jamais à être discipliné, là, je vous donne une garantie que le Saint-Esprit est en vous, le fruit de l'Esprit est en vous, et vous allez marcher d'une façon disciplinée en 2014. Je peux vous dire, moi, j'ai confiance en vous. Je relâche ma foi pour vous-même. Si vous ne croyez pas que vous êtes discipliné, je crois pour vous aujourd'hui. Je relâche ma foi. Recevez, je crois que vous êtes discipliné en 2014. Je crois que vous arrivez à une place d'une soif spirituelle où votre soif est tellement intense où vous allez mettre de côté toutes les autres choses qui nuisent votre relation avec Dieu et vous allez entrer dans une discipline personnelle à chaque jour. Dans Galates 5, versets 22 à 23, en lisant dans la Bible du Sommeur, c'est dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, vous marchez tous dans l'amour en 2014. C'est l'amour, parce que ça découle, ça fait partie de qui vous êtes. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Oh, hallelujah! Vous êtes tous dans la joie à chaque jour de votre vie. La paix, la patience. Oh, imaginez être patient. Ah, j'ai fini d'être irritable, moi. Fini ça, d'être irritable. Non, je suis patient. L'amabilité, la bonté, la fidélité. Être fidèle, être discipliné, ça veut dire être fidèle. Être fidèle. Vous êtes fidèle parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. N'est-ce pas merveilleux? Vous ne saviez pas, vous pensiez autrefois que vous manquiez de discipline. Mais ça, c'était une séduction satanique. Vous étiez séduit, mais vous venez d'apprendre, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez justement la discipline, vous avez la fidélité, n'est-ce pas? Le voyez-vous dans votre Bible? L'avez-vous, le fruit de l'Esprit, dans votre vie? Peut-être vous l'avez, puis vous dites, bien, ce fruit-là a besoin de se développer. Absolument, je suis d'accord, mais vous avez déjà la semence en vous, l'Esprit de Dieu qui est là. La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça veut dire que vous êtes au contrôle de vous-même. Vous êtes au contrôle de votre humeur en même temps. Saviez-vous ça? Amen, votre attitude, vous avez le contrôle sur votre attitude. Hallelujah! Hallelujah! Parce que j'ai le fruit de l'Esprit en moi, la maîtrise de soi. J'ai le goût d'être bougonneux, mais je suis joyeux au nom de Jésus. Hallelujah! La loi ne condamne certes pas de telles choses. On n'a pas besoin de loi contre la joie, la paix, l'amour. Non, ça va très, très bien quand les gens marchent dans ces choses-là. Donc, l'incrédulité vis-à-vis de votre consécration personnelle. Il y a des gens qui disent que c'est impossible. La Bible, en un an, j'ai fait l'annonce aujourd'hui qu'on pourrait tous ensemble lire la parole de Dieu en consacrant 15 minutes par jour en 2014. Certaines personnes, pendant que je parlais, disaient « Ah, oh, c'est impossible pour moi. » Levez pas vos mains, là, mais je me demande bien combien de personnes disaient « Impossible, impossible, impossible. » Non, c'est bon pour les autres. C'est, ça va, impossible, pas pour moi, impossible. Au nom de Jésus, transformez le « impossible » des 10 espions incrédules et prenez le rapport de Caleb et Josué. C'est possible. 15 minutes par jour, je suis capable. Je suis capable en 2014. Une heure de prière à tous les jours. Une heure de prière, juste au minimum. Minimum, une heure de prière. Impossible, impossible. Plusieurs, c'est ça. Peut-être c'est impossible à 6 heures le matin avec nous. Peut-être, ça se peut, il y en a plusieurs, c'est impossible. Vous êtes éloigné géographiquement, vous avez des responsabilités, les enfants, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais votre temps à la maison, c'est possible, n'est-ce pas? Si c'est impossible pour vous de vous rendre ici pour prier à chaque jour, peut-être, par contre, il y en a, vous pouvez vous rendre. Il y en a peut-être que vous avez juste cru que c'était impossible. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu vous lance un défi et revoir, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Peut-être Dieu va vous dire, comme vous cherchez la face de Dieu en ce moment, il va dire, possible. Ça se peut que c'est possible pour vous. Et vous verrez la gloire de Dieu. Donc, la Bible en un an. Une heure de prière à tous les jours. Est-ce que c'est possible? Oh là, parce qu'on est dans une église légaliste. Ils nous forcent à lire notre Bible. Ils nous forcent à prier. Quelle sorte d'église que c'est ça? Oui, coupable, coupable. Je vous exhorte à la prière. Je vous exhorte à la lecture de la parole. Amen. C'est la seule façon qu'on vit les victoires. C'est quand on est consacré à Dieu. Et c'est la façon qu'on rentre dans notre terre promise. Et qu'on vit nos victoires. Il y en a d'autres, vous avez une destinée. Dieu vous a donné une destinée, puis vous avez relâché, comme vous avez cessé de croire dans vos rêves. Mais Dieu vous a donné des désirs. Ça dit dans la parole que Dieu nous donnera les désirs de nos cœurs. Pourquoi? Si Dieu nous donne des désirs, c'est pour les accomplir, c'est pour les vivre. Et plusieurs personnes vous avez dit, bon, ça n'arrivera jamais. Ben, ça n'arrivera jamais parce que vous n'y croyez pas. Mais si vous dites, aujourd'hui, je prends la décision, en 2014, je me positionne pour vivre ma destinée. Peut-être que je ne vivrai pas le summum de la destinée. Peut-être que ça va prendre plus qu'un an, je ne sais pas. Mais au moins, je me positionne et je me mets dans la bonne direction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, votre destinée personnelle, vous devez la prendre en main. Il n'y a personne qui va prendre votre destinée en main pour vous, qui va vous dire, voici votre destinée, voilà, tout est accompli. Non, vous devez répondre à l'appel de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël devait dire, oui, on va aller envahir cette terre, on va aller en Canaan, on va aller prendre notre territoire, notre héritage, ce qui nous appartient. Nous devons pareillement faire la même chose et dire, ça, c'est ma terre promise, c'est ma destinée, je dois prendre ma destinée en main. Amen. Et me positionner pour y arriver. Amen. Gloire à Dieu. Géant numéro 3. Encore une fois, l'incrédulité vis-à-vis de notre destinée collective. Venez avec moi dans Nombre, chapitre 13, versets 27 à 28. On l'a lu. Je vais relire. Ça dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et ça continue à chialer. Êtes-vous de cette compagnie-là vis-à-vis un vécu? Et je vous dis ça aujourd'hui parce que c'est important qu'en 2013, avant d'arriver en 2014, qu'on puisse s'examiner soi-même. Dieu a une destinée pour votre vie spécifique, personnelle. Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Croyez-vous ça ce matin? Dieu a un plan pour vous. Un plan pour vous. Mais le plan de Dieu pour vous est toujours relié à votre maison locale, à votre église locale. Et il y a un mythe dans le corps de Christ qui dit que l'église locale n'est plus importante. C'est faux, ça. C'est important d'être bien établi dans notre église locale, être bien implanté et de marcher dans la vision de notre église. C'est important, ça. Parce que dans Éphésiens 4, 11 à 16, vous pourrez lire tout ce texte-là, ça nous parle des 5 ministères qui sont là pour équiper le corps de Christ pour l'œuvre du ministère. Donc, vous êtes censé d'entrer dans le ministère. Mais je veux vous dire, mon cœur pour vous et le cœur de l'équipe pastorale, c'est de relâcher chaque personne qui est prête à entrer dans leur destinée. C'est mon cœur, croyez-vous, croyez-moi, là, je suis plus prêt que vous êtes prêts. S'il y a des gens qui pensent des fois que je peux retenir quelqu'un d'entrer dans son appel, détrompez-vous. Je veux plus que vous. Je peux vous dire, j'ai plus hâte. Dieu a plus hâte que vous avez hâte. Moi, j'ai hâte. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aide. L'Église grandit, il y a plus de besoins, il y a plus de choses qui se passent. J'ai besoin plus d'aidants. J'ai besoin plus de personnes qui vont servir, qui vont entrer dans leur appel. Parce que quand une personne rentre dans son appel, la personne est heureuse et ça fait plein de personnes heureuses autour d'eux. Et vous savez, plus qu'on est là à servir Dieu, le plus qu'on est heureux ensemble. Et moi, j'ai hâte que vous puissiez tous entrer dans votre appel. Mais pour y arriver, on a besoin d'avoir plein de bonnes choses. Une bonne attitude, de un, mais aussi... On doit faire partie de la compagnie de Josué et Caleb, une compagnie de la foi. On doit croire dans notre appel et on doit croire dans notre église locale. On doit croire, et aujourd'hui, pendant que je parle, je sens dans l'esprit, je dérange pas des gens. Et c'est correct, je vais vous déranger. Mais je vais vous dire des choses qui vont vous aider. Vous savez, dans une église, il n'y a jamais d'église parfaite. Je peux vous avouer, un vécu, c'est une église imparfaite. Dites imparfaite. Nous sommes imparfaits, premièrement, parce que le pasteur est imparfait. Oui, je suis imparfait. Je sais que je vis sous un microscope et tous les pasteurs vivent comme ça. Et on étudie les imperfections et non seulement sont sous microscope, après sont télédiffusés mondialement. Et là, on parle des défauts de tout le monde. Ça, c'est normal, je sais, ça fait partie du terrain. J'accepte d'être dissecté après chaque repas et on me coupe en 10 000 morceaux puis on fait routier le pasteur Joël. Ça, je suis habitué, je sais que ça arrive. Alléluia! Heureusement, le Saint-Esprit est là pour nous restaurer. Mais tout ça pour vous dire... Je suis vraiment imparfait, mais j'ai un amour pour Dieu. J'ai un amour pour Dieu et je veux que Dieu me change, me transforme, OK? Et votre voisin, le frère qui est à côté de vous, ce voisin-là, là, lui aussi est imparfait. L'autre voisin, à votre droite, à votre gauche, sont tous imparfaits, eux autres, là. Eux, là, sont imparfaits. Je sais que vous, là, écoutez bien, je sais, oui. Je sais, vous, ça va très, très bien. Mais les gens autour de vous sont imparfaits. Donc, que Dieu vous donne la grâce dans cette église, parce que étant des personnes aussi sanctifiées comme vous êtes, il y a des gens autour de vous qui sont tellement en besoin de changement, de transformation. Bon, je vous dis tout ça. Une église est toujours imparfaite. C'est juste ça que je veux établir. Nous sommes tous imparfaits. Une église est imparfaite. Et si on réalise ça, je suis dans une église imparfaite, mais c'est merveilleux parce que là, je peux prier pour mon église. Je veux prier que Dieu nous change et que de jour en jour, on se rapproche toujours du Seigneur Jésus. Si on a un cœur vraiment d'amour, là on a une conversation pastorale. Vous savez, au Québec, là, un des grands problèmes pour la faiblesse, une des raisons pourquoi l'Église est tellement faible au Québec. Savez-vous c'est pourquoi? Parce que les gens arrivent dans une église, au début, ils sont vraiment enchantés. Ils disent « Ah, c'est cool, j'aime ça, ça c'est bon. » Et après quelques semaines, ça me tape ses nerfs, ça c'est moins bon. Là, on commence à décortiquer et on n'aime pas certaines choses. Est-ce que c'est normal, ça? Oui, parce qu'on est des êtres humains. On voit les défauts. Et les gens sont plus spécialisés à voir les défauts que voir les bons côtés. OK, je continue. Alléluia, chant l'onction. Bon, là... Mais là, l'Église est imparfaite, remplie de personnes imparfaites. Et là, quand les gens sont frustrés par des imperfections, ils vont quitter pour aller dans une autre Église parfaite. Mais après quelques semaines, ils découvrent que cette Église-là aussi est imparfaite. Donc, ce qui se passe, quelques semaines plus tard, ils vont quitter cette Église-là pour aller dans une autre Église parfaite qui devient finalement imparfaite. Finalement, ça devient le marathon des Églises évangéliques du Québec. Et c'est pour ça que l'Église évangélique du Québec est si faible, parce qu'on a un manque de loyauté envers notre Église locale. Quand c'est imparfait, au lieu de dire... Je vais être la personne, l'agent du Saint-Esprit pour amener un changement, pour améliorer la situation. Ce que les gens font, ils quittent ou ils murmurent, comme le peuple d'Israël. Ils murmurent. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui, pendant que l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs. Aujourd'hui, êtes-vous une personne qui aime bâtir son Église par la prière et par vos paroles, ou êtes-vous un destructeur d'Église par vos paroles et par vos murmures? Écoutez bien, c'est une bonne question, très bonne question. Parce qu'au Québec, on a besoin, ici localement, on a besoin d'une église où les gens marchent dans la loyauté, où les gens marchent dans l'amour. Si on aime notre église, là, même s'il y a des choses imparfaites, on va payer le prix, puis on va aimer. Je vais vous dire comment on fait pour aimer. On va premièrement prier. On va prier pour notre église. On va prier pour les imperfections. On ne priera pas en privé, puis dire, « Ben là, t'as-tu vu Janine, là? » Là, il faut prier pour elle, parce qu'elle est comme ci, comme ça. Là, on est à bas côté. Il faut prier pour elle qui est comme ci. Non, c'est pas ça, là, je veux dire. Individuellement, on prie pour les imperfections, OK? Parce que Dieu, il va nous montrer aussi nos imperfections, puis Dieu va nous changer. Mais écoutez bien ceci. Sauf que là, admettons, vous voyez une imperfection, il y a quelque chose qui cloche. Oui, il y a quelque chose qui cloche. Des fois, les gens ont peur de parler. Parce qu'ils disent, ben là, on va être accusé d'être dans la médisance. On va être accusé de faire la médisance. Donc, il ne faut rien dire. On ne dit rien. Et ce que je vous dis en ce moment, là, ça va bâtir notre église. Écoutez bien, ce que je vous donne là, ce matin, c'est la dynamite d'explosion de la gloire. Croyez-moi, là, ça va exploser dans la gloire prochainement. Écoutez bien ceci. Là, admettons, il y a quelque chose qui cloche dans l'église. Ce que Dieu vous appelle à faire, c'est d'être courageux, comme Moïse a dit aux 12 espions. Soyez courageux. Le courage, l'amour, va faire en sorte que vous allez parler à la personne responsable du département pour faire du changement. La personne qui manque de courage, qui manque d'amour, va parler à droite et à gauche et va médire. Là, c'est de la médisance parce qu'on parle du négatif sans pouvoir emmener un changement. Mais si on aime notre Église, puis il y a quelque chose qui cloche. Il y en a des choses qui clochent, c'est sûr et certain, parce qu'on est des êtres humains. Mais au moins, on veut aller de l'avant. C'est-à-dire que si on a des personnes qui veulent aller de l'avant avec nous, qui aiment assez l'Église, qui vont dire directement à leur leader de département, « Écoute, il y a ça qui cloche, j'aimerais ça peut-être vous proposer une solution. » Amen. Là, on parle avec un bon cœur, une bonne attitude, aimant notre Église locale, voulant que cette Église-là avance. Amen. Bon, si on a un bon cœur comme ça, rempli d'amour, ça prend du courage. Parce que des fois, on a été rejeté dans le passé, on n'a pas pu être reçu, on n'a pas été reçu dans nos choses qu'on a expliquées. Oui, ça va vous prendre du courage, mais bravo quand vous prenez votre courage et vous aimez votre Église. Vous allez dire, ça cloche, mais en 2014, moi, je vais prendre mon courage, puis je vais proposer une solution. Et vous allez être peut-être surpris, mais j'ai eu des personnes qui sont venues par amour, ils m'ont dit, ça cloche, puis j'ai dit, merci de me le dire, je le savais même pas. Ça fait combien de temps que ça cloche? 1 an. Ben merci de me le dire, on va le corriger. On veut avancer, frères et sœurs. Mais quand les gens disent, ça cloche, ouais, t'as dit, ça cloche. Ça cloche, ça va continuer à clocher parce que vous ne parlez pas aux personnes qui peuvent faire le changement. Mais si vous parlez, c'est pas de la médisance. Quand on parle pour construire, quand on parle puis on dit oui, il y a du négatif, mais c'est pour amener un changement, de l'amélioration. Quand vous parlez, vous bâtissez votre église. Vous priez. Puis là, vous avez la patience aussi pour que la transition, le changement arrive. Amen. Mais un destructeur d'église, c'est ces gens-là qui parlent sans parler aux bonnes personnes. Frères et sœurs, voulez-vous qu'en 2014, que la gloire de Dieu descende dans cette maison? Voulez-vous qu'on vive une croissance numérique? Oui, une croissance spirituelle, mais une croissance numérique. Oui, mais savez-vous ce qu'on a besoin de faire? C'est d'être unis. On a besoin d'être unis dans la foi, unis dans la vision. On avance, nous autres. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui va nous empêcher. On va y arriver dans notre terre promise. On va voir des âmes sauvées. Comme on va évangéliser avec Entraide de vécu cette année, on va voir des âmes venir au Seigneur Jésus. On va voir des malades guéris. On va voir des délivrances. On va voir ces choses-là. Et on va marcher dans une seule direction. Quand on va faire l'annonce pour d'autres pièces de théâtre, moi j'embarque. Je vais servir là-dedans. Je vais voir mon église avancer. Mais tout ça, c'est possible, frères et sœurs. La terre promise spirituelle est possible pour nous si on est prêt à payer le prix, premièrement, en ayant du courage. En passant, ceci n'est pas une exhortation à me trouver des bébites si vous n'en trouvez pas. Si vous êtes heureux, ne dites pas, ben, comment est-ce que je peux critiquer? Le pasteur, il porte pas toujours des cravates. J'aimerais ça qu'il porte plus de cravates. Non, c'est pas ça. C'est pas une invitation aux plaintes. C'est pas un nouveau département à EVQ, département des plaintes. C'est pas ça. Mais vous voulez progresser dans l'Église, puis vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Bien, nous autres aussi, on veut que ce qui cloche arrête de clocher. Comprenez-vous? Amen. Croyez-moi, mon cœur, quand on a établi cette Église en 2008, notre prière, premièrement, c'était que cette Église soit une maison, une famille spirituelle. Moi, j'ai été élevé dans une église chrétienne où, en partie, j'étais dans plus qu'une église. Sauf que, essayez pas de deviner c'était laquelle. Mais j'ai été élevé dans une église une partie du temps où les gens disaient bonjour, bye-bye. Seigneur te bénisse. Vous connaissez ça, Seigneur te bénisse? Bonjour, Seigneur te bénisse. Bon, Seigneur te bénisse. Puis on ne se connaît pas. Je connais pas, c'est monsieur qui me dit toujours Seigneur de ministre, là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Puis je le connais pas non plus. Puis nous, quand on établit l'église, j'ai dit, je veux qu'on soit une famille où les gens, de un, comme on a vu après les groupes vie, la formation des groupes vie, où les gens, quand ils vivent quelque chose de difficile, sont pas tout seuls à dessécher dans leur coin. Ils peuvent parler avec un frère, une sœur, puis être dans une famille, puis avoir un soutien. Puis quand ça va bien, on peut se réjouir aussi. On est là pour tout, là. Se réjouir puis pour pleurer. Toute la quitte. Mais on veut être une famille où les gens peuvent grandir ensemble. Passer du temps ensemble. S'ils sont seuls dans le temps de Noël, il n'y a personne de seul à EVQ. On va les inviter dans notre famille. Parce que c'est ça que Dieu veut. L'église primitive, c'est une église où les gens s'aimaient, passaient du temps ensemble. Il y avait des accrochages, comme des fois des Ananias et Saphira, ça mourait de là. Mais à part de ça, on les enterre et on continue. Non, mais sérieusement. Il y a toujours des petits problèmes des fois dans les églises. C'est sûr, il va en avoir. Puis je prophétise en 2014, il va y avoir d'autres problèmes. Mais vous savez, si votre frère, là, qui est votre papier sablé dans la vie, s'il aime Jésus, là, puis vous aimez Jésus, vous êtes deux personnes, vous avez quelque chose en commun. Vous avez quelque chose en commun, vous les deux, vous aimez Jésus. Puis peut-être que vous avez besoin de plus de grâce à supporter ce frère-là, mais gloire à Dieu, il est là parce que vous pouvez changer à cause de lui. Alléluia! Non, mais c'est vrai. Sauf que si on se dit, en 2014, moi je veux rentrer dans ma terre promise, j'ai une destinée. Puis il y a peut-être des choses qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Je suis là, ça fait des années, je grogne. Je chiale et je grogne. OK, vous avez chialé, vous avez grogné. À qui? Ben, Joe Blow et à Joe Blin. Ben, eux autres, est-ce qu'ils ont l'autorité dans l'Église pour changer quelque chose pour toi? Non. Mais je me défoule, puis je me sens bien. Mais se défouler, ça ne changera rien. Allez parler avec votre leader de département. Puis, allez pas chialer ou grogner. Mais priez avant, dites, Seigneur, OK, il y a cette affaire, ça me tape ses nerfs, mais au nom de Jésus, montre-moi comment je devrais en parler. Puis si vous parlez là, à la personne comme si c'était vous, là, imaginez quand vos enfants viennent vous chialer, là, c'est un beau mot québécois, là, mais admettons quand vos enfants venaient ou viennent vers vous, puis vous parlent comme ça, vous êtes mal disposé. Hein? Moi, je sais tout de suite quand il y en a une, ah, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais si, papa, moi, là, j'aimerais ça vivre telle affaire dans ma salle de jeu. Mais il y a toujours l'autre qui me met des... Mais admettons, la personne arrive bien disposée. J'aimerais ça vivre telle affaire. Est-ce que ça serait possible? Bien, on va examiner ça. Peut-être une bonne idée. Et peut-être la personne va dire, ben, c'est une très mauvaise idée. C'est pourri. Mais là, au moins, vous pouvez dire, ah, ben, au moins, j'en ai parlé. Puis là, vous jugez si c'est tellement élémentaire, si c'est tellement important pour vous que c'est insupportable. Parce que si vous vivez toute votre vie chrétienne frustrée, vous allez être malheureux longtemps. C'est longtemps, là. Mais, sauf que votre défi en 2014, c'est d'être courageux. Votre défi, c'est d'aimer. Aimer assez votre Église que vous allez parler aux bonnes personnes. Et croire que Dieu va changer des situations. Parce que si on veut tous avancer, combien d'entre vous, vous êtes sur les breaks? Non, je veux pas avancer dans ta promesse, je veux rester dans le désert. Non, personne. Non, non, il n'y a personne comme ça. On veut tous rentrer dans ta promesse. Où coule le lait et le miel. Où la gloire de Dieu est déversée. On veut tous vivre ça. Mais si on veut tous vivre la même affaire, est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut s'aimer? Est-ce qu'on peut payer le prix ensemble et être courageux? La confrontation, je peux vous dire, il y a bien des gens qui ont peur de ça. C'est pour ça que l'Église au Québec est comme elle est. Parce que les gens partent tout le temps. Ils partent. Ils sont déçus, ils partent. Là, ils sont heureux, ils partent. C'est ça. C'est tout du monde popcorn. C'est pouf, ça vient. C'est bien beau. C'est beau quelques mois. Après, on a fait le tour du répertoire de la musique, puis pouf, ça part. C'est comme ça. Mais au nom de Jésus, en 2014, à un vécu, nous allons vivre ce miracle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est possible? En 2014, nous allons vivre ce miracle. Nous allons dire, Satan, là, moi, je bouge pas d'ici. Les vents contraires, je vais rester à ma place. Ouais, mais il y a ça qui te dérange. Je vais en parler. Ben non, tu vas te faire rejeter, tu vas te faire écraser. Non, au nom de Jésus, on me dit que je vais être reçu. Et en plus, on va célébrer mon chiolage. Non, pas le chiolage. Mais on célèbre. Moi, là, je me réjouis. Je me suis réjoui plusieurs fois. Ces dernières fois, j'ai dit merci de me le dire. Merci, je suis content. Parce que quand on apprend des choses, on peut corriger. Puis savez-vous, notre façon d'agir, c'est jamais avec la... On n'est pas comme ça ici. Vous savez, là, avec le fouet, c'est pas ça notre cœur. Notre cœur, c'est pas d'aller taper ses doigts du monde puis de chicaner. Puis c'est pas ça. Notre cœur, là, c'est vraiment le progrès. C'est la terre promise. Donc, gloire à Dieu. Aujourd'hui, donc, GN numéro 3, c'est l'incrédulité vis-à-vis de notre destinée collective. L'incrédulité va vous dire, oh, ça ne vaut pas la peine, bien ça, c'est un manque d'amour, mais c'est comme l'incrédulité peut venir pervertir votre foi qui vous donne le courage, puis dire, bien, ça n'arrivera jamais, ça ne vaut pas la peine, écoute, là, ça, j'ai plein d'excuses, c'est impossible. Sauf que là, on ne fait rien, puis ça n'arrive pas, c'est sûr, puis là, on est frustré, puis ça continue. Mais, en plus, on déplace nos problèmes ailleurs. Parce que des fois c'est notre problème, des fois, ce n'est pas les autres. En passant. Des fois, le problème, c'est pas les autres. Des fois, c'est vous autres. Mais, ouch, hein? Mais, ça fait que là, non, mais c'est vrai. Ça fait que si on est humble, puis imaginez si vous adressez la parole à quelqu'un, vous avez un problème dans votre département, puis vous êtes humble. Et là, vous apprenez que vous avez totalement tort, et là, vous entendez l'explication pourquoi c'est fait d'une telle façon, comme j'ai fait récemment. La personne était humble. Sauf que là, c'est pas sachant pour la personne qui dit « Ah, OK, ben c'est vrai, c'est une bonne idée. » Comprenez-vous? Mais si la personne arrive « Hey, c'est comme ça, super arrogant. » Mais là, quand on arrive pour amener une autre façon de penser, la personne a tellement été insultante et méchante qu'elle a du mal à reprendre sa place. Voyez-vous? Donc, si on marche tous dans l'amour, dans le respect, dans la communication, dites « communication ». En 2014, on va communiquer aux bonnes personnes. Puis, le mensonge, je me répète, et Dieu veut que je me répète, les gens pensent, si je parle, on va m'accuser de faire de la médisance. Non, on va vous accuser de faire de la médisance si vous faites le tour de l'Église, mais vous ne parlez pas à personne qui peut faire un changement. Ça, c'est de la médisance. Ça, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est de s'associer avec Satan, l'accusateur des frères. Oh, c'est bénissant, je sais. Alléluia. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Mais, si j'aime mon Église, j'aime mes frères et mes sœurs, j'aime l'œuvre de Dieu, je veux que l'Église avance, je paye le prix, je prends mon courage à deux mains, je parle quand c'est temps de parler, j'ai une bonne attitude, on rentre ensemble dans Tentrale, promise en 2014, on va faire des exploits pour Dieu et vous n'aurez pas à recommencer encore à zéro partout. Amen. Ça, ce message, c'est bon pour un vécu, mais c'est bon pour toutes les églises, tous ceux qui vont écouter ce message, que ce soit... Peu importe les centaines ou les milliers de personnes qui vont écouter ce message, si vous êtes dans une église puis vous êtes un chialeux, Dieu vous délivre en 2014. Hallelujah! C'est la délivrance des chialeux pour des gens remplis de louanges et qui veulent voir des changements qui vont payer le prix. Amen. Le Québec a besoin de bâtisseurs d'église. Aujourd'hui, êtes-vous un bâtisseur d'église? Amen. Est-ce que le royaume de Dieu peut commencer en nous? Si on est des bâtisseurs du royaume de Dieu, moi je veux dire, je termine avec ce verset-là, Ésaïe 9, verset 6, dans la version King James française, ça dit, concernant le royaume de Jésus, à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. L'accroissement de son gouvernement, dans ma vie premièrement, son gouvernement royal commence premièrement dans ma vie. Son gouvernement royal commence dans ma vie et je vais marcher dans les principes de son royaume, je vais marcher dans l'amour, je vais continuer à croire Dieu pour le miraculeux et ensemble nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais ça terminer avec un mot de prière. On va prier pour vous pour votre année 2014. Viens, ma chérie de gloire, on va prier ensemble. Et j'aimerais vous lire ce texte dans Nombre, chapitre 13, verset 30. Je vais te laisser lire d'abord. Ah non, t'as pas ton micro. Caleb dit, tu diras Amen. Caleb dit, oh non, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Pouvez-vous dire Amen ce matin? Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est pour nous. On va croire ça toute l'année. Nous y serons vainqueurs. Nous sommes les victorieux à cause de la croix aujourd'hui. Et Mathilde et moi, on veut vraiment juste prier pour vous. Seigneur, on te remercie pour chaque personne dans cette maison, pour les personnes aussi en voyage. Les connaît là où ils sont, pour nos amis en Acadie, nos frères et nos sœurs, et pour les autres à la radio, sur Internet. Aujourd'hui, on veut déclarer sur leur tête vraiment la victoire. Nous te remercions, Seigneur, pour la croix, pour l'œuvre de la croix qui a fait de nous des victorieux. Merci pour cette identité de victorieux que tu nous donnes. Merci, Seigneur, Dieu, que 2014, c'est l'année de notre terre promise. Nous rentrons dedans avec joie, avec foi, et nous célébrons ton nom, et nous réjouissons pour les percées qu'on va vivre ensemble dans la maison de Dieu. On a pris au nom de Jésus, et nous déclarons le shalom sur chaque personne, rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.